L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons.
On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien.
France Culture.
L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
Les termes du débat européen.
Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe.
Le débat sur l'avenir de l'Europe a ainsi été relancé.
Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe.
Emmanuel Laurentin.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial, celui du vendredi, les termes du débat européen. Une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui en Europe. À l'ordre jour ce soir, Suède et OTAN. La Suède, qui se targuait d'être un pays non aligné depuis deux siècles, serait-elle devenue un pays normal? Entrée il y a 15 jours, le jeudi 7 mars dans l'OTAN, elle en est désormais le 32e membre. Comment un pays pour qui le pacifisme a toujours été une vertu a-t-il en deux ans décidé de rejoindre l'alliance militaire occidentale au risque de paraître provoquer la Russie de Poutine? En tout cas, c'est comme cela que Poutine le voit sûrement. Certes, une petite partie de son électorat, les Verts, et une partie de la gauche ont protesté contre cette entrée dans l'OTAN au prétexte qu'elle n'avait pas vraiment été débattue par la société. Il reste que, comme pour les pays baltes, la guerre russe en Ukraine depuis 2014 et plus encore depuis 2022 est apparue comme une alerte suffisante pour augmenter considérablement le budget de la défense et que le gouvernement conservateur, soutenu par l'extrême droite, a décidé de suspendre parallèlement la quasi-totalité des financements publics des ONG qui œuvrent pour la paix. Nous sommes pour en parler en compagnie de Barbara Kunz. Bonsoir Barbara Kunz.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de la radio suédoise, la radio de Suède, et vous êtes directrice du programme Sécurité européenne de l'Institut international de recherche sur la paix, justement de Stockholm. Avec nous en studio à Paris, Amélie Zima, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, responsable du programme Sécurité européenne et transatlantique au Centre des études de sécurité de l'IFRI, et vous êtes autrice d'un Que sais-je qui marche bien, puisque vous en êtes à la troisième édition en peu de temps, un Que sais-je justement sur l'OTAN.
Et au moment où nous nous parlons, il faut aussi féliciter certains de nos collègues, puisque se joue en ce moment le vote au Parlement de Hongrie qui va permettre à la Suède, et j'en félicite le ministre des Affaires étrangères qui représente ici son Premier ministre et son pays, qui va donc permettre à la Suède de joindre l'OTAN. En deux ans, la Suède et la Finlande auront donc rejoint notre organisation. Félicitations à votre pays.
La Suède laisse désormais derrière elle 200 ans de neutralité et de non-alignement. C'est un grand pas. Nous devons prendre cela au sérieux. L'adhésion à l'OTAN signifie que nous rejoignons un grand nombre de démocraties pour coopérer en faveur de la paix et de la liberté.
C'était en février dernier. Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, suivi du Premier ministre suédois Ulf Kristersson. Est-ce que justement cette adhésion de la Suède à l'OTAN, vous qui vivez en Suède, Barbara Kunz, c'est une question débattue puisque nous faisons ces émissions consacrées justement au terme du débat européen comme étant des émissions qui sont sensibles à ces débats qu'on peut avoir dans la société du pays en question. Est-ce que c'est encore débattu ou est-ce que maintenant que l'adhésion est faite, eh bien c'est terminé?
C'est un peu à la surprise générale qu'il n'y a pas vraiment eu de débat sur cette question dont on aurait pu penser qu'elle suscite énormément de débats. Mais suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, on a vu le saut le plus important jamais observé dans les sondages d'opinion publique en Suède, qui font qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité des Suédois qui sont favorables à cette adhésion à l'OTAN, dans les 60% de manière continue depuis février 2022. Et donc, il n'y a pas beaucoup de débats sur cette adhésion de la Suède à l'OTAN.
Est-ce qu'on sait si c'est la peur évidemment d'une agression russe, ou est-ce que c'est autre chose qui a, disons, fait basculer de façon très surprenante une opinion publique qui a été considérée généralement auparavant comme une opinion publique plutôt pacifiste? On entendait souvent le terme de paix revenir. Vous êtes vous-même dans un centre de recherche sur la paix. Évidemment, le prix Nobel de la paix est remis à Stockholm. Donc on se dit, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose, c'est sûrement l'agression russe dans le Donbass d'abord, en Crimée, et puis ensuite, depuis deux ans maintenant, dans le reste de l'Ukraine.
Oui, alors tout à fait, il n'y a aucun doute sur cette question-là, c'est-à-dire que le principal facteur qui explique cette décision et cette opinion publique, c'est effectivement une réévaluation de la menace qu'est la Russie pour la sécurité suédoise. Et ensuite, deuxième facteur, mais qui est la conséquence de ce premier, c'est aussi la décision de la Finlande de rejoindre l'OTAN. Mmh. Et où en Suède, on se disait, on ne va pas rester en dehors tout seul, entouré de pays membres de l'OTAN.
Oui, effectivement, avec cette accusation justement de transformer la Baltique en mer de l'OTAN, puisque désormais, effectivement, la Russie n'a pour sortir de ses ports du côté de Saint-Pétersbourg, ça n'est pas vrai pour Kaliningrad, qu'un léger couloir de mer entre justement ces pays. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Amélie Zima ?
Oui, en fait, il y a un intérêt stratégique pour l'OTAN à avoir ces deux pays. D'une part, effectivement, parce qu'on a le verrouillage de la mer Baltique. La Suède possède une île au milieu de la Baltique qu'on appelle Gotland, qui a été remilitarisée d'ailleurs. Donc la Russie, effectivement, n'est accès que par Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Et puis aussi, avec l'entrée de la Suède, de la Finlande, ça fait un continuum avec la Norvège. Et l'OTAN, en fait, se projette comme ça vers le Grand Nord, vers la mer de Norvège, vers la mer de Barents. Et il y a une vue directe en fait sur la péninsule de Kola, et dans cette péninsule de Kola, l'oblast de Mourmansk, on a la flotte en fait la flotte de la marine russe qui est stationnée. Et un dernier point aussi, c'est que ça sort les pays baltes de leur isolement. Les pays baltes étaient reliés au reste des pays de l'OTAN que par la Troïe de Suvaoki, qui est ce petit corridor entre
On en a parlé voilà. Ici il y a 2 semaines.
Donc, en fait, ça donne un peu de profondeur stratégique aux baltes et ça fait qu'ils sont un peu moins isolés, sont un peu moins une île, en fait, puisqu'ils ont ils auront la Finlande et tout ça. Et donc, cette profondeur stratégique qui leur est donnée par la Baltique.
Alors, peut-être est-ce parce que, justement, Olof Palme faisait ses grandes rencontres sur cette île de Gotland à une époque où, effectivement, la Suède était plutôt pacifiste et extrêmement active pour pouvoir régler des conflits dans le monde entier, que savoir que cette île de Gotland, dans cet espace baltique, eh bien, est devenue une île militarisée, peut nous dire, ben voilà, il y a peut-être effectivement une vraie crainte, Barbara Kunz.
Oui, alors il y a tout à fait une vraie crainte, ça sent un peu partout dans la société suédoise. Alors,
ça se sent comment ?
Je ne vais pas dire que... Alors, il faut pas penser que c'est la panique générale ici, mais ça sent par exemple au niveau des municipalités qui commencent à mettre en œuvre des planifications pour des situations de crise. Alors pas forcément la guerre, mais c'est évidemment le scénario qui est en tête de prévoir de la nourriture, des plans d'évacuation. Ce genre de discussions ont tout à fait lieu ici. Et puis aussi, on sent un intérêt accru, par exemple, parmi les jeunes, pour les métiers qui sont liés aux questions de sécurité nationale. Mmh. Un intérêt de s'engager plus dans ces associations qu'on pourrait qualifier de paramilitaires qui joueront aussi un rôle en cas de guerre. Donc on a vraiment le retour de ces questions et de manière, je dirais, très très pratique, qui vont jusqu'à, je sais pas, des municipalités par exemple qui achètent des boîtes de conserve qu'on peut garder pendant 30 ans pour être préparé à toutes sortes de crises.
Mmh. Est-ce que cette coopération nouvelle, cette entrée de la Suède dans l'OTAN, n'est pas la suite logique, pourrait-on dire, à Amélie Zima, d'un programme qui a commencé dans les années 90, au milieu des années 90. En 94, il y avait un programme de partenariat pour la paix, d'ailleurs, il s'appelait comme cela, qui était organisé justement pour rapprocher l'OTAN de la Suède. La Suède a participé à des opérations de maintien de la paix, je crois, à l'extérieur de son propre pays, et d'une certaine manière, depuis, on fait les surprises, mais depuis 94, il y a déjà un chemin qui était tracé.
Alors, effectivement, la Suède est rentrée dans le programme du partenariat pour la paix en 94. C'était pas un programme qui était destiné uniquement à la Suède, hein, c'est pour un ensemble de partenaires en Europe et en Asie centrale. Elle a renforcé très fortement cette coopération après l'annexion de la Crimée et le déclenchement de la guerre dans le Donbass. Hein. En 2016, on a des accords logistiques qui sont signés, par exemple, entre la Suède et l'OTAN. Et en fait, ça n'a fait que s'intensifier. La Suède a commencé à rendre ses armées interopérables avec celles de l'OTAN, donc respecter les normes militaires de l'OTAN, faire des exercices pièce en commun, faire de l'échange d'informations. Donc en fait, on a une armée qui était habituée à travailler avec l'OTAN. Après, l'adhésion n'est pas, je dirais pas que c'est une suite logique. Hein, je pense que c'est plutôt une sorte de révolution copernicienne pour la Suède qu'une suite logique. Révolution qui s'est opérée en peu de temps, mais ça tient vraiment au choc de cette invasion globale de février 2022. Et on a des discours très clairs aussi des dirigeants suédois sur le fait qu'il y a un refus des sphères d'influence, que chaque pays doit avoir la liberté de choisir ses alliances. Et donc, il y a une sorte de prise de conscience, en fait, que les partenariats, que le potentiel national n'est pas suffisant pour assurer sa sécurité. Et je dirais aussi en creux que ça montre que l'Union européenne n'est pas considérée comme une organisation qui peut assurer la sécurité territoriale. Parce que l'UE, elle a une clause de sécurité, c'est l'article 42.7 du traité de Lisbonne. La Suède fait partie de l'UE, mais la Suède, comme la Finlande, elles ont décidé de rentrer dans l'OTAN parce que finalement, c'est l'OTAN qui apparaît comme la seule organisation à même de protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays européens.
Alors, je disais que les gouvernements qui sont au pouvoir aujourd'hui en Suède, Barbara Kunz, disent qu'il faut, par exemple, contrecarrer sans état d'âme les projets russes de déstabilisation. C'est Tobias Billström, qui est ministre des Affaires étrangères, qui a dit ça avant-hier. Et parallèlement, le roi, parce que c'est une monarchie, Charles XVI Gustave, dit « La Suède veut la paix, elle ne menace personne, il faut préserver la liberté et l'indépendance de la Suède, et c'est ce qui reste l'objectif le plus important ». Comment tenir ces deux discours à la fois, Barbara Kunz?
Alors, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le roi a un rôle cérémoniel et qui doit unir le pays. Donc, sa voix dans le débat politique n'est peut-être pas primordiale. Après, vous avez évidemment des partis politiques, parce que disons que l'enthousiasme pour cette adhésion à l'OTAN, elle dépend vraiment de où vous vous positionnez sur l'échiquier politique.
Donc, si on est à la droite et conservateur, on est pour cette adhésion. Si on est de gauche ouvert, on est beaucoup moins pour.
On est beaucoup moins pour. Alors, si on est sociaux-démocrate, on pense quand même que pour des raisons pragmatiques, c'est tout à fait nécessaire. Mais c'est plutôt, à droite que vraiment il y a aussi une dimension idéologique dans cette décision, parce que il faut bien se souvenir que la droite suédoise, qui représentait dans quatre partis, il y avait déjà consensus en 2015 que la Suède devrait rejoindre l'OTAN. C'était juste les sociaux-démocrates qui à l'époque qui étaient vraiment opposés, qui étaient au gouvernement et qui cherchaient des alternatives. Et la principale, la stratégie du gouvernement de l'époque, c'était, donc, comme Amélie Zima l'a décrit, à la fois de se rapprocher de l'OTAN, mais aussi de se rapprocher des États-Unis dans des accords et la coopération bilatérale. C'est juste que le jour de l'invasion de l'Ukraine, on a réalisé que l'Ukraine, qui était aussi un partenaire très proche de l'OTAN, être un partenaire proche de l'OTAN, finalement, ça ne sert à rien. Ouais. Il n'y a que les membres qui ont cet article 5, et donc le discours suédois ou officiel suédois, c'était justement pour préserver l'indépendance et la liberté de la Suède, c'était à travers l'adhésion à l'OTAN.
Et ça permet tout de même au chef d'état-major suédois, Amélie Zima, de dire désormais l'OTAN va de la Turquie au sud au Svalbard au nord. Donc il y a cette idée comme ça d'un long continuum justifie justement toutes ces adhésions.
Oui, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Barbara concernant le partenariat que l'OTAN a avec la Suède et l'insuffisance du partenariat. Le cas ukrainien le montre parce que le secrétaire général de l'OTAN, depuis le début de la guerre, n'a pas arrêté de dire l'Ukraine est un partenaire, donc il n'y aura pas d'article 5. Et donc, c'est les limites de ce partenariat aussi qui peut pousser des pays comme la Finlande et comme la Suède à rechercher plus, effectivement. Donc l'OTAN, effectivement, on a une politique d'élargissement là qui est allée vers les pays scandinaves, avec un élargissement, je dirais aussi, qui a été relativement facile et rapide, parce que ce sont des pays qui respectent en fait tous les critères. Tant la Suède que la Finlande, les critères politiques sont des états de droit qui respectent les valeurs libérales et démocratiques, des économies de marché fonctionnelles, des armées modernes, bien équipées, même si elles sont réduites. Et là, ça montre aussi en creux que la politique d'élargissement de l'OTAN, d'une certaine façon, elle arrive à ses limites. Parce que les pays qui veulent rentrer maintenant, ce sont des pays qui ne respectent pas les critères. Ouais. On a la Géorgie, qui a des territoires sécessionnistes. On a l'Ukraine, qui est en guerre, avec des territoires occupés. Et puis bon, et qui ne respectent pas non plus l'ensemble des critères politiques, juridiques, économiques de l'OTAN. Donc, d'une certaine façon, là, on arrive à un point où...
on ne pourra plus élargir.
Bah, ou alors on change les critères.
Oui, c'est ça. Ça fait partie des possibilités. Qu'est-ce qu'on dit, parce que j'ai cru comprendre, Barbara Kunz, que un point était important pour beaucoup de, y compris de ceux qui ont soutenu l'adhésion à l'OTAN de la Suède, c'était l'idée, mais pas de tête nucléaire sur notre territoire. Est-ce qu'on en sait quelque chose? J'ai entendu beaucoup de discours, j'ai lu beaucoup de discours de responsables politiques qui disent non, on veut bien entrer dans l'OTAN, mais le nucléaire, c'est non pour nous.
Alors ça, c'est un débat qui est en train d'émerger, je dirais, ou enfin qui a lieu depuis quelques temps, mais qui n'a pas encore abouti sur une position officielle suédoise. Et c'est la question de savoir s'il devait y avoir des restrictions, comme par exemple le Danemark et la Norvège l'ont depuis les années 50 sur le stationnement d'armes nucléaires. Alors, la tendance, je dirais, dans le débat un peu dur en Suède et très très dur envers la Russie, et, enfin à droite, disons, sur l'échiquier politique, et consiste à dire que vraiment il ne devrait pas y avoir de limite à quoi que ce soit, et donc la Suède est aussi rentrée dans l'OTAN sans limitation sur quoi que ce soit, mais il paraît aussi que pour les partis anciennement opposés à cette adhésion à l'OTAN, c'est le nouveau champ de bataille. C'est la question nucléaire et d'une certaine manière aussi la question des troupes américaines sur sol suédois.
Parce qu'il y a prévision d'accès à 17 bases en Suède de la part des Américains.
Voilà, il y a ça. Voilà, donc techniquement, c'est pas lié à l'adhésion à l'OTAN, puisque c'est un accord bilatéral entre la Suède et les États-Unis. Mais effectivement, faut voir tout ça dans le contexte, et donc notamment dans la gauche, c'est un peu devenu le nouveau champ de bataille et des débats. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de décision. Non, c'est pas tranché.
Amélie Zima.
Oui, alors. Quand un État devient membre de l'OTAN, il n'a aucune obligation en fait à stationner des armes nucléaires sur son territoire. Et des États, justement, comme Barbara Kunz l'a dit, la Norvège a refusé, mais la République tchèque aussi a refusé en 1999 quand elle est devenue membre de l'OTAN. Et elle a refusé en disant « nous ne voulons pas d'armes nucléaires parce que nous allons devenir une cible ». Il n'y a pas d'obligation non plus d'avoir des bases de l'OTAN, il n'y a pas d'obligation d'avoir des troupes des États membres. Donc voilà, il y a vraiment, c'est un peu du sur-mesure en fait. Et la présence par exemple de troupes OTAN sur le flanc oriental, c'est très récent, en Pologne, dans les États baltes, tout ça c'est très récent, puisque c'est post-Crimée et ça a été mis en place après le sommet de Varsovie en 2016.
Donc vous voulez dire qu'il y a encore une possibilité de négociation, une négociation n'est pas conclue pour l'instant autour de toutes ces questions?
Non, et puis ça peut évoluer. De toute façon, ça peut évoluer au fil des années en fonction de l'évolution de la situation stratégique.
Vous écoutez Le Temps du Débat, l'émission spéciale du vendredi, les termes du débat européen. Aujourd'hui, nous vous parlons de la Suède et donc le terme du débat, c'est OTAN après l'entrée de la Suède dans cette alliance militaire.
La conclusion que nous tirerons pour notre sécurité est que nous avons déjà pris une décision organisationnelle. Des armes supplémentaires seront localisées, stationnées, déployées sur place. Elles seront adaptées aux menaces qui pourraient apparaître sur le territoire de la Finlande et de la Suède. Il y a beaucoup de matériel analytique au cours des deux derniers mois que l'Occident semble commencer à comprendre l'inutilité, la futilité et la nocivité de continuer à inciter l'Ukraine à une action militaire. Mais les dernières déclarations à la fois de Macron et du secrétaire américain à la défense Lloyd Austin et la conversation des généraux allemands indiquent encore que le parti de la guerre ne veut pas changer son cours vers l'infliction d'une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille.
Нанесение стратегического поражения России на поле боя.
France Culture, les termes du débat européen. Emmanuel Laurentin.
C'était le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui réagissait il y a deux semaines à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. On a bien entendu que le parti de la guerre pour Sergueï Lavrov, c'est effectivement l'OTAN et l'Occident, comme on peut l'imaginer. Est-ce que, justement, les déclarations récentes ou plus anciennes des proches de Vladimir Poutine enveniment le débat en Suède, Barbara Kunz?
Non, j'ai l'impression que l'effet est plutôt l'inverse, puisqu'il confirme à tout le monde que c'était la bonne décision de rejoindre l'OTAN. En Suède, on a un petit peu l'habitude de ce genre de propos venant d'officiels russes. La Russie a longtemps eu un ambassadeur ici à Stockholm qui mettait en garde les Suédois contre le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, ce genre de choses. Donc je pense que on en a vraiment l'habitude et ce genre de propos ne servent qu'à confirmer à l'opinion publique que la Suède a bien fait de rejoindre l'OTAN.
Mais c'est néanmoins, on voit bien qu'il y a des coups de menton d'un côté comme de l'autre, puisque au moment de la signature de cette entrée de la Suède dans l'OTAN, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a déclaré que c'était la débâcle stratégique de la Russie, Amélie Zima.
Il n'a pas tout à fait tort, en fait, parce que si on regarde les sondages d'opinion, on se rend compte qu'avant l'adhésion, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la population suédoise, elle n'était pas franchement pour rentrer dans l'OTAN. Il y avait en gros 30% de Suédois qui voulaient rentrer dans l'OTAN. Donc c'est vraiment cette invasion qui a changé la donne tant en Suède qu'en Finlande. Donc la politique russe de cette façon-là, elle est assez contre-productive. Et de toute façon, ça n'a pas non plus détourné l'Ukraine de son objectif qui est également d'adhérer à l'OTAN, même si, je pense que c'est bien de le rappeler, tout le narratif russe qui prend l'OTAN comme pour prétexte de cette guerre-là est un narratif qui est faux, hein, puisque l'OTAN n'a jamais invité l'Ukraine à la rejoindre, l'OTAN n'a jamais donné n'a jamais fait rentrer l'Ukraine dans son programme de préadhésion qu'on appelle le plan d'action pour l'adhésion, donc il y avait vraiment une relation qui était uniquement une relation de partenariat et où...
Vous voulez dire que ce serait plutôt l'Union Européenne qui serait la cible normale de la Russie et non pas l'OTAN?
Ça devrait l'être parce que c'est l'Union européenne qui a signé un accord, qui s'est engagée beaucoup plus vis-à-vis de l'Ukraine. Et on se rappelle, si on regarde la chronologie, que le mouvement Euromaïdan, en fait, il est parti du refus du président ukrainien de l'époque de signer un accord d'association avec l'Union européenne et pas du tout d'une quelconque négociation avec l'OTAN. Et c'est de là qu'a découlé la Crimée, le Donbass. Et l'UE aussi a un pouvoir transformatif sur un pays qui est beaucoup plus important que l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est une organisation de défense régionale, rien de plus. Elle peut éventuellement changer l'armée, faire des réformes pour optimiser, rendre plus efficaces les armées, mais rien de plus, alors que l'UE intervient dans tous les champs, en fait, tous les domaines politiques, juridiques, économiques, ce qu'on peut, quoi. Donc, voilà.
Alors, on a vu aussi des discussions depuis cette entrée, mais elles avaient commencé même avant, en Suède, Barbara Kunz, sur la question de la norme financière qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir avoir une défense efficace en Suède, par rapport justement à ces menaces potentielles de la Russie voisine. Et donc, pour l'instant, le contrat des 2% du PIB est déjà rempli, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais déjà, il y a une partie des mouvements politiques qui disent, en particulier le Parti libéral du centre qui est affilié au groupe Renew, qui dit passons tout de suite à 2,5 voire à 3% du PIB.
Oui, alors la Suède est un peu, comment dire, en mode flanc Est, c'est-à-dire que notamment le gouvernement de droite...
Qu'est-ce que vous appelez le mode flanc Est? Parce que quand on parle en termes stratégiques, on comprend, mais nos auditeurs ne sont pas tous des stratèges, ils n'ont pas joué au jeu de stratégie quand ils étaient plus jeunes. C'est quoi le mode flanc Est?
Non, alors la Suède, je pense que dans le débat européen, la Suède a vraiment rejoint des pays comme les pays baltes ou la Pologne quand il s'agit d'avoir une attitude très dure envers la Russie et de vraiment miser sur la dissuasion. Alors dissuasion au-delà du sens purement nucléaire, mais vraiment de miser des investissements dans l'outil militaire et de vraiment se préparer à un conflit avec la Russie. Et donc ça 100, se sent 119, vraiment dans...
119 milliards de couronnes, soit plus de 10 milliards d'euros en 2024. C'est ça le budget de la défense.
Oui, et c'est beaucoup d'argent pour un pays qui, bon, comme tous les autres pays européens, a quand même une crise du coût de la vie, l'inflation est élevée, je veux dire.
Et qui part de très bas en matière de défense aussi, parce que d'une certaine manière, quand on n'imaginait pas qu'on allait être obligé de mettre autant d'argent dans la défense, Mélisima.
Alors, en fait, la Suède, elle investissait relativement peu si on compare aux normes autour dans sa défense. Quand elle fait sa demande d'adhésion en 2022, on est à 1,3 du PIB. Maintenant, l'OTAN estime que 2% c'est le seuil et qu'il faut donc aller plus loin. Et vous avez beaucoup de pays maintenant, dont la Pologne notamment, qui font du lobbying au sein de l'OTAN pour que le seuil devienne 3%. La Pologne qui dépense quasiment 4% du PIB dans la défense. Ouais. Après, le choix du non-alignement qu'avait la Suède ne signifiait pas qu'elle avait une armée indigente, puisque justement le choix du non-alignement, ça suppose aussi d'être capable de se défendre seule et d'avoir une industrie apte à équiper l'armée.
Donc et c'est pour ça qu'on a la Suède est le 13e fournisseur d'armes dans la planète.
C'est le 13e exportateur d'armes dans le monde, et c'est un secteur qui est compétitif au niveau mondial, vraiment avec des entreprises de premier plan comme Saab notamment, qui fournit des avions de chasse, ce genre de choses. Après, l'industrie suédoise n'est pas autosuffisante, et ça c'est quelque chose sur lequel les Suédois aimeraient travailler, c'est-à-dire qu'on est obligé d'importer en fait des composants qui sont hors UE, et ça en cas de guerre c'est quand même une faiblesse, hein, de devoir notamment tout ce qui est semi-conducteur, devoir importer ça d'autres pays, c'est une faiblesse.
Barbara Kuhn, sur ce point.
Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire la Suède pendant la guerre froide, pour aller un peu en retour, la Suède pendant la guerre froide a vraiment misé sur un outil militaire fort, mais à la fin de la guerre froide a décidé que c'était, je cite, le time-out stratégique et qu'il n'y aurait plus de menace. On a vraiment réorienté les forces armées sur des interventions comme en Yougoslavie, en Afghanistan, etc.
Rappelons-nous qu'ils ne sont les seuls à avoir pensé cela. C'était les dividendes de la paix, disait-on à l'époque.
Oui, non, tout à fait. Ils sont pas du tout seuls à avoir pris cette décision-là. Mais donc, tout a changé, en tout cas sur le papier, en 2015 déjà. Donc, après l'annexion de la Crimée, où vraiment on a décidé de réorienter toute planification sur la défense territoriale et de réinvestir dans les armées, de réintroduire le service militaire, etc. Et donc, là, plus récemment, il y a effectivement aussi un débat sur la composante industrielle. Et comme le dit Amélie Zima, oui, on se rend compte que c'est un problème de devoir importer. Alors, on importe aussi beaucoup des États-Unis, notamment pour les avions de chasse Gripen, où à peu près 50% des composantes sont en réalité d'origine américaine, ce qui est aussi vu comme un investissement dans le lien transatlantique et notamment en vue d'une possible élection de Donald Trump. Donc, je veux dire, la logique va un peu dans deux sens différents. Mmh. Plus d'indépendance, mais aussi plus de coopération avec les États-Unis.
Mais est-ce que il y a le même sentiment que dans les pays baltes dont nous parlions il y a deux semaines, c'est-à-dire cette idée d'avoir alerté, en particulier alerté l'Union européenne, et de ne pas avoir été entendu, et de se dire tout compte fait, on était les premiers à dire qu'il fallait faire quelque chose, et au bout du compte, les pays occidentaux de l'ouest de la péninsule européenne n'ont pas suivi. Barbara Kuhn, non ?
Un petit peu, je dirais. Alors, je pense que jusqu'à l'annexion de la Crimée, la Suède faisait partie de ceux qui, comme je le disais, croyaient au time-out stratégique et qui ne voyaient pas forcément de menaces russes. À l'époque, il y avait vraiment des analystes qui disaient que dans les 10 ans à venir, il n'y aura pas de risque de sécurité dans l'environnement proche de la Suède. Mais donc, en Suède, tout ça change en 2014, 2015, et depuis, la Suède fait effectivement plus partie de ce groupe de pays qui alertent et qui sont très critiques, très, très suspicieux de la Russie et qui essayent de pousser le reste des Européens dans cette direction.
Mais est-ce que, une autre question, et c'était évoqué tout de suite par Barbara Kuhn, c'est la question de l'élection présidentielle américaine. Et est-ce que cette élection présidentielle américaine, comme pour le reste de l'Europe d'ailleurs, pèse comme une hypothèque sur la possibilité justement du parapluie américain, de la possibilité à Mélisima d'être protégée par l'OTAN en cas d'élection de Donald Trump?
Alors, si on regarde le premier mandat de Donald Trump, et si on raisonne à partir de ce mandat, effectivement, il y a eu une fragilisation de l'Alliance à cause de tous ces discours disant qu'il n'allait pas défendre notamment les États qui ne dépensaient pas 2% du PIB. Et ça, c'est un discours qui visait quand même beaucoup l'Allemagne aussi.
Il a redit des choses
un peu semblables. Il a redit des choses semblables, mais il a déjà un peu rétropédalé en disant qu'il a fait exprès de dire ça pour forcer, pour avoir une posture de négociation forte et forcer... Ouais. Alors après, si on regarde les engagements américains durant le premier mandat de Donald Trump, au niveau bilatéral, on a un programme d'investissement en Europe, notamment en Europe centrale, qui est voté par le Congrès, et les fonds ont augmenté durant un programme qui s'appelle European Deterrence Initiative, et les fonds ont augmenté durant le premier mandat Trump. Durant ce premier mandat aussi, les Américains ont accepté et ont mis en œuvre les engagements qui avaient été pris lors du sommet de Varsovie en 2016, c'est-à-dire de faire partie de la force de dissuasion que l'OTAN a stationnée en Pologne. Notamment, les Américains sont présents notamment en Pologne. Donc, on a quand même eu une série d'engagements tenus par les États-Unis de Trump. Donc, à partir de ce mandat-là, savoir si l'OTAN va être complètement fragilisée par le deuxième mandat Trump...
C'est jouer à la roulette...
Je trouve... Enfin, moi, je n'irai pas jusque-là. Je pense que l'OTAN a été, par exemple, beaucoup fragilisée par le retrait de l'Afghanistan, qui n'a pas été concerté. C'était pas Trump qui était au pouvoir. Mmh. Voilà. Donc, il me semble difficile, à partir du premier mandat, de dire que l'OTAN va s'effondrer lors du éventuel second mandat Trump. Donc, fragilisé sans doute, parce que ces déclarations ne font pas de bien à une organisation qui est basée sur la confiance. Quand on fait des déclarations comme ça, évidemment, la confiance peut se briser. Ça, c'est certain.
Barbara Kuntz, j'ai vu qu'il y avait eu des sondages, mais on sait la vertu ou au contraire les défauts des sondages, mais qui disaient qu'il y avait une majorité de Suédois qui disaient qu'il y avait eu trop de sacrifices faits pour devenir membre de l'OTAN. C'est quoi les sacrifices qu'on fait, que fait un pays pour devenir membre de l'OTAN? Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, je crois que dans ce cas précis de la Suède, il s'agit surtout des concessions que la Suède a faites à la Turquie pour finalement s'assurer du soutien, vote turc.
Soutien turc. Rappelons qu'effectivement, la Suède était considérée par la Turquie comme trop favorable aux Kurdes, et qu'à ce titre-là, effectivement, la signature par les Turcs de cette adhésion était suspendue.
Voilà, et donc vous avez de nombreuses voix effectivement dans le débat suédois qui disent que la Suède a fait trop de compromis afin de s'assurer de ce soutien turc, notamment sur la liberté d'expression, la voix suédoise pour les droits de l'homme enfin sur la scène internationale, et donc notamment pour dénoncer par exemple la manière dont le gouvernement turc traite les Kurdes et de manière plus générale les problèmes de démocratie en Turquie, où vraiment il y a une bonne partie de la fierté nationale suédoise qui vient justement de cette idée que la Suède est le pays sur la scène internationale qui dénonce ces choses, qui sont vraiment une voix forte pour les droits de l'homme, et où donc on critique la réelle politique menée par le gouvernement suédois dans cette question.
Amélie.
Oui, je voudrais ajouter à ce qu'a dit Barbara Kuntz que, en fait, pour obtenir l'accord turc, parce qu'il y avait aussi la question de la Hongrie qui a ratifié...
Oui, on a entendu le président français se félicitant de la ratification
par la Hongrie. Il y avait deux pays qui posaient problème, c'était la Turquie et la Hongrie. Et dans le cas de la Turquie, il y a eu un mémorandum tripartite qui a été signé entre la Finlande, la Suède et la Turquie sous l'égide de l'OTAN, et où en fait la Suède et la Finlande se sont engagés à beaucoup de choses, c'est-à-dire à lever un embargo sur la vente d'armes qu'ils avaient mis en place à cause des actions de la Turquie en Syrie. Ça, c'est normal, parce qu'ils vont être dans la même alliance militaire, ça serait étrange d'avoir des embargos entre alliés. Mais ils se sont engagés à ne pas protéger les Kurdes du PKK et du YPG. Ils se sont engagés à faciliter les extraditions demandées par le gouvernement turc. Ils se sont aussi engagés à soutenir la participation de la Turquie à des projets de coopération militaire au sein de l'Union européenne. Donc il y a eu quand même beaucoup d'engagement de la part de la Suède et de la Finlande. Et du côté turc, tout ce qu'ils se sont engagés à faire dans le mémorandum, c'est on va aider la Suède et la Finlande à lutter contre le terrorisme. Donc là, il y a quand même une certaine victoire diplomatique de la Turquie, qui a aussi obtenu des choses au sein de l'Union européenne, parce qu'ils ont déporté les négociations au sein de l'Union en demandant la revitalisation de l'union douanière, la levée du régime de visa, enfin plein de choses comme ça. Et donc, finalement, voilà, c'est la Turquie, finalement, a mené un bras de fer et a obtenu quand même des concessions intéressantes.
Est-ce que le fait que le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, qui est un ministre conservateur, soit soutenu par l'extrême droite, et une extrême droite très vive, comme dans d'autres pays d'ailleurs de Scandinavie, est-ce que cela change les choses? Est-ce que cela a joué un rôle dans cette question de l'OTAN par rapport à la Suède? Ou est-ce que c'était marginal?
Alors, oui et non, je dirais, puisque le soutien des démocrates de Suède, dont l'extrême droite pour l'OTAN, n'est pas très enthousiaste, on va dire. Et ça, c'est plutôt pour des raisons de souverainisme, je dirais, de méfiance par rapport aux organisations internationales. Mmh. Ils ont tout récemment décidé de faire campagne pour le Svexit, donc la sortie de la Suède de l'Union européenne, exemple, dans les élections européennes. Donc, ça vous donne une idée. En même temps, ils ont eu un impact assez fort sur justement ces négociations avec la Turquie, en continuant à brûler des Corans ou à faire des propos du genre « il faut interdire les mosquées en Suède », etc. Ce qui n'a vraiment pas facilité le dialogue entre la Suède et la Turquie.
Et donc, aujourd'hui, leur position, vous dites, elle est de ces démocrates de Suède, elle est, disons, pas attentiste, elle n'est pas non plus très forte pour soutenir l'accord avec l'OTAN, mais ils laissent faire.
Officiellement, ils sont favorables à la Suède dans l'OTAN. Donc, ils ont, d'une certaine manière, ils ont changé d'avis sur la question, mais ce ne sont pas les plus grands enthousiastes de l'OTAN.
Amélie Zima.
De façon générale, je dirais que si un pays a envie de sortir de l'OTAN, de toute façon, il peut le faire. La Suède vient de rentrer, si à la faveur d'un changement de gouvernement...
C'est moins compliqué de faire un Brexit de l'OTAN que de faire un Brexit de l'UE.
Alors, moins compliqué, ça dépend, parce que la procédure n'existe pas, puisqu'aucun pays n'est jamais sorti de l'OTAN. Il faudrait inventer des procédures. Ouais. Cela dit, la Suède n'est pas un pays qui, au sein de l'OTAN, a l'importance, par exemple, des États-Unis. Si les États-Unis sortaient de l'OTAN, il y aura énormément de choses à considérer, puisque ce sont les plus gros contributeurs au budget. Ils dirigent énormément de commandements OTAN. Donc voilà, ça serait pas du tout la même importance. Mais en soi, quand on rentre dans l'OTAN, on signe un traité international. Un pays a le droit de dénoncer ce traité. C'est quelque chose de tout à fait en soi normal.
Un dernier mot, Bamara Kouns, justement sur le débat qui naît ou qui, au contraire, n'est pas si vif que cela en Suède autour de cette question de l'OTAN.
Non, mais c'est très intéressant à observer, en tout cas, parce que ça a des répercussions un peu partout. Tout le travail dans les ministères se réorganise. La Suède a besoin de compétences OTAN qui, pour l'instant, n'existaient pas. La Suède doit aussi se positionner sur des questions sur lesquelles elle ne devait pas se positionner en tant que non-membre, donc notamment toutes ces questions nucléaires. Donc, c'est vraiment un processus de rejoindre cette alliance qui ne s'arrête pas le jour de la adhésion officielle.
On peut l'imaginer, effectivement. Merci beaucoup. À vous, Bamara Kouns. On remercie nos confrères et consoeurs de la Sveriges Radio, la radio de Suède, qui vous ont accueillis dans leur studio. Merci à vous, Amélie Zima. Vous êtes docteur en sciences politiques et responsable du programme Sécurité européenne et transatlantique au Centre d'études de sécurité de l'IFRI. Et votre Que sais-je sur l'OTAN, qui nous dit tout justement sur cette organisation, en est à sa 3e édition. Je rappelle que vous êtes Bamara Kouns, directrice du programme Sécurité européenne de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Le temps du débat était préparé ce soir par Candice Bergeron, Mathias Mégy, Fanny Richet, Anouk Sévenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Brice Garcia, avec à la technique Dalia.